étaient semblables à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'homme. Cinq d'entre elles ne prirent pas d'huile avec elles. Et les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leurs lampes. Or, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux prudentes, donnez-nous de l'huile, de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les prudentes répondirent, disant, non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous-mêmes. Or, comme elles s'en allaient pour en acheter, l'époux vint. Et celles qui étaient prêtes rentrèrent avec lui aux noces. Et la porte fut fermée. Ensuite viennent aussi les autres vierges, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais lui répondant, dit, en vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Quelques versets encore dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7. Mais la fin de toute chose s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier. Deuxième épître, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 11, toutes ces choses devant donc se dissoudre. Quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tâche et irréprochables devant lui en paix. Et estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres, il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre, que les ignorants, mais les mal affermis tordent, comme aussi les autres écritures, à leur propre destruction. Apocalypse chapitre 3, verset 10, parce que tu as gardé, c'est dans la lettre à Philadelphie, la parole de ma patience, Moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habiter tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Promptement, vitement. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, mais le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Bien, c'est cette parabole des vierges sages et des vierges folles. Elle a été souvent méditée, elle garde toujours un caractère solennel, parce que c'est toujours la parole de Dieu qui, quand elle est lue, nous apporte toujours quelque chose pour l'âme, toujours un encouragement, un avertissement, une consolation. Il y en a pour tous. C'était une coutume en Orient que, lors des noces, on aille escorter l'époux. Les jeunes filles allaient l'escorter avec des lampes. Et le Seigneur se sert de cette coutume en Orient pour présenter un enseignement particulièrement solennel relatif à sa venue qui est proche. Ce chapitre se place après le chapitre 24, chronologiquement bien sûr, et nous savons que dans ce chapitre 24e de Matthieu, le Seigneur nous donne des enseignements prophétiques. Le chapitre 24 de Matthieu va même jusqu'au chapitre 13 de l'Apocalypse, puisqu'il parle de l'abomination, de la désolation, l'idole qui désole, c'est-à-dire la seconde l'homme de péché qui sera manifesté après l'enlèvement de l'Église et qui se présentera comme étant Dieu. Il s'assiera au temple de Dieu. Il a plusieurs noms, l'homme de péché. Dans le livre de Daniel, il est appelé le roi, agira selon son bon plaisir. Dans le prophète Zacharie, il est appelé le pasteur de néant. C'est un homme terrible, c'est l'incarnation même de Satan, qui agira avec la première bête, nous savons bien, le pouvoir civil. L'Empire romain constitué. Donc dans ce chapitre 24e, le Saint-Esprit nous fait avancer dans ces choses futures et nous montre l'accomplissement des conseils de Dieu à l'égard de la terre. On a dit aussi, je rappelle seulement, tout le monde le sait bien, que l'évangile de Matthieu est un évangile dispensationnel. Au chapitre 13, le Seigneur sort de la maison, il quitte la maison Israël et il s'assied au bord de la mer, image des nations. La charnière de cet évangile se situe au chapitre 11e quand le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, et moi je vous donnerai du repos. Sa grâce n'est pas seulement pour les Juifs, elle est pour tous, tous les hommes. » Tous sont invités à croire en lui pour avoir la vie éternelle. Donc, nous avons ici une forme du royaume des cieux. Bon, à noter aussi que dans cet évangile, le royaume est appelé en général le royaume des cieux, peut-être sauf erreur, cinq passages, où il est appelé le royaume de Dieu. On qu'on trouverait dans les écrits de nos anciens frères, notamment cet article « Quelques notes sur le royaume », des éclaircissements sur un point qui est assez confus dans l'esprit des chrétiens. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume du Fils de son amour, le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ. Ce sont là autant d'expressions que nous trouvons dans l'Écriture. Pourquoi le royaume est-il le royaume des cieux dans cet évangile? Parce que le roi étant rejeté, caché dans le ciel, il a pris ce caractère. C'est le royaume des cieux. Le roi est dans le ciel, il a été rejeté, il a été crucifié par son peuple, il était le Messie. Son peuple n'a pas voulu de lui. Alors le roi est caché, mais il apparaîtra un jour. Il a des droits sur la terre, il a des droits comme fils de Dieu et il a des droits comme fils de l'homme. Rappelons que dans cet évangile, nous avons ce chapitre 13 qui est remarquable, où il y a cette parabole 6 et 1, plus exactement. Un groupe de 6 paraboles qui se divise en 2 parties de 3 chacune. Les trois premières paraboles nous présentent l'aspect extérieur du royaume des cieux, disons, de la chrétienté dans son ensemble. L'ivraie avec le froment, le grain de moutarde qui devient un grand arbre, et les 3 mesures de farine qui font lever la pâte, qui est l'aspect extérieur du royaume. Les 3 suivantes nous présentent ce qu'il y a pour Dieu au milieu d'un tel état de choses, le trésor caché dans le champ, la perle de grand prix et la scène qui rassemble les poissons. C'est ce qui est intérieur, ce qui est selon Dieu, l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, au milieu de cet état de choses. Le trésor, ce sont tous les croyants. La perle, c'est plus spécialement l'assemblée. Comme étant aimé de Christ, il a vendu tout ce qu'il avait pour l'acheter. Ce n'est pas comme on a dit dans la chrétienté, on a interverti. On a dit que le pécheur avait trouvé une perle. Pas ça du tout. C'est faux. La perle, c'est l'assemblée. Et le marchand, c'est le Seigneur. Il a vendu tout ce qu'il avait, il s'est anéanti lui-même, il s'est dépouillé de tout, il a été le pauvre pour nous enrichir. Et dans la scène, on voit que les pêcheurs ne s'occupent que des bons poissons. Ces paraboles sont donc prophétiques aussi et très caractéristiques en Matthieu. Et alors, le royaume de Dieu, pourquoi le royaume de Dieu? Luc parle uniquement du royaume de Dieu. Dans Jean aussi, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est une sphère de bénédiction dans laquelle on entre par la nouvelle naissance et uniquement par là. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Né d'eau et de l'esprit. Autrement dit, dans le royaume de Dieu, il n'y a que des croyants. Dans le royaume des cieux, il y a des professants et des croyants. Il y a ceux qui ont la vie que Dieu connaît, et il y a ceux qui font profession de christianisme. C'est tout un ensemble, n'est-ce pas, très vaste. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a que des croyants. De même que dans le corps de Christ, il ne peut y avoir que des croyants. Dans la grande maison de 2 Timothée, il y a des vases à déshonneur et des vases à honneur, il y a tout un mélange. Alors c'est pourquoi l'apôtre invite les croyants, invite Timothée à se retirer de l'iniquité, c'est-à-dire de l'injustice, pour marcher avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est ce que nous avons à faire, c'est ce que nous devons si on fait il y a plus d'un siècle, et c'est ce que nous avons à maintenir à tout prix. Cette séparation peut coûter beaucoup, quelquefois, et susciter des problèmes, susciter des questions, on peut être taxé d'étroitesse d'esprit. Le croyant doit obéir au Seigneur. JND disait, mon affaire c'est d'obéir. J'aime tous les enfants de Dieu, mais je dois obéir. Nous avons à marcher dans ce chemin de séparation pour le Seigneur. Cela n'empêche pas d'aimer tous les croyants. Au contraire. Cela conduit à les aimer. Mais il ne faut pas confondre, comme le disait un serviteur de Dieu que nous avons beaucoup apprécié et qui maintenant, hélas, ne peut plus venir, il ne faut pas confondre amour et communion. Nous avons donc là une forme du royaume des cieux, cette parabole des vierges. Cinq sont folles, manquent de sagesse, et cinq sont prudentes. On peut dire que c'est le tout début du christianisme. Dès que l'évangile a été prêché, tous les croyants sont sortis pour attendre le Seigneur. Il n'y a qu'à lire au début des actes, et on voit qu'il y a eu un élan, l'élan du premier amour. Mais très vite, le mal est entré dans l'Église par le moyen de faux ouvriers, on nous l'a rappelé. Au cours de ses études, faux docteur, ouvrier trompeur, et il s'est établi donc un mélange dans l'assemblée, dans l'église a mondanisé. Alors il faudrait pour cela, chacun peut le faire, se reporter aux sept églises de l'Apocalypse. On voit le déclin, Éphèse, Smyrne, la persécution, Pergame, c'est l'appui sur le pouvoir du monde, l'empereur Constantin. On voit ensuite Thyatire, Rome, et puis Sardes, le protestantisme dégénéré, parce qu'au commencement, la réformation a été une œuvre essentiellement divine. Les réformateurs étaient des hommes de Dieu. Ne les mettons pas avec le protestantisme actuel. Mais Sardes, c'est ce qui a suivi la Réformation, c'est un état de choses qui déplaît souverainement au Seigneur. Tu as le nom de vivre et tu es mort. Toutefois, j'ai quelques noms à Sardes. On a été souvent intrigué par ce passage, il s'adresse à Sardes. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'ils s'étaient inscrits eux-mêmes dans le livre par leur profession chrétienne, mais ils n'y étaient pas inscrits comme nés de nouveau. Dieu n'effacera jamais le nom d'un croyant, son livre. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Mais ils s'étaient inscrits, pour ainsi dire, par leur profession elle-même. Ceux qui sont écrits dans le livre de vie sont écrits à toujours. Paul en parle aux Philippiens, dont le nom est dans le livre de vie, dit-il. Mais revenons à cette scène. Il y a donc un ensemble qui est sorti, et il va y avoir une séparation. Un tri. Nous constatons que cinq d'entre elles avaient de l'huile, et les cinq autres n'en avaient pas. Elles n'avaient qu'une lampe. Il est clair que la lampe, c'est la profession chrétienne extérieure. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit, toujours. Saint-Esprit, la vie divine en nous. Donc, 5 avaient bien une lampe, 10, les 10 avaient bien une lampe, mais 5 n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Ce sont donc ceux qui, aujourd'hui encore, forment ce grand corps professant, qui est appelé la chrétienté, qui sera appelé Babylone dans l'Apocalypse. Elle est tombée Babylone la Grande, Apocalypse 19. C'est cet ensemble religieux qui est en abomination aux yeux du Seigneur. Et les saints qui ont l'huile représentent donc son assemblée, tous les croyants qui ont la vie, qu'ils en aient conscience ou non. Nous réalisons bien à la table du Seigneur que dans le seul pain, il y a tous les enfants de Dieu. Mais nous ne pouvons pas marcher avec tout. Est-ce parce que nous voulons nous placer au-dessus des autres? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes peut-être au-dessous de des autres quant à la fidélité dans la marche. Il y a des chrétiens à Thyatire, il y a des chrétiens à Sardes qui sont plus fidèles que nous, c'est certain, dans la pratique. Mais nous parlons de la position ecclésiastique, du terrain que Dieu nous trace dans sa parole. L'unité d'un seul corps, où est-elle exprimée? À la table du Seigneur. Il n'y a qu'une table du Seigneur, il ne peut pas y en avoir deux. Alors, c'est à chaque croyant de chercher, de demander au Seigneur où se trouve sa table. Il ne nous appartient pas de dire, elle est là. Mais chaque croyant est responsable de discerner où se trouve le lieu où le Seigneur a mis la mémoire de son nom. Et soyons de ceux qui puissent aider ces âmes, non pas en manifestant un esprit de supériorité, bien au contraire, mais un esprit de grâce, un esprit d'amour, de conseil. On fait remarquer que la première épître aux Corinthiens a une adresse tout à fait générale, on ne peut plus générale, à tous les sanctifiés dans le Christ Jésus. De sorte que tous ceux qui lisent cette épître dans la chrétienté sont responsables à l'égard de ce qui est dit là. Or, c'est dans cette épître, au chapitre 10, que le principe de la communion est posé. Un seul corps. Elle n'est pas seulement adressée à Corinthe, remarquons-le, à tous les sanctifiés dans le Christ Jésus. Il n'y a pas d'adresse plus générale. Donc, chacun est responsable vis-à-vis de ce que la parole de Dieu lui dit. Alors il s'est passé quelque chose, et c'est sans doute le réveil du siècle dernier, auquel il est fait allusion au milieu de la nuit. Il se fit un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé il y a, c'était en 1830 à peu près, nous ne savons pas ce qui s'est passé exactement, il s'est fait un cri. Il y a eu dans les cœurs de tous ceux qui aimaient le Seigneur le sentiment qu'ils devaient se séparer de l'ensemble dans lequel ils se trouvaient. Et chacun peut relire dans l'église ou l'assemblée les premiers débuts quand, je crois, quatre frères se sont réunis. Et la parole de Dieu dans leurs mains, ils ont vu qu'ils avaient à se séparer avec douleur de ceux qui les entouraient. Non pas des personnes, mais des principes eux-mêmes. Des principes. Et ça a été avec un très grand déchirement de cœur, chers amis, sûrement. Sûrement. Ils ont cela historiquement, chacun peut le retrouver. Ça a été avec un grand serrement de cœur. Mais ils sont revenus, ils ont replacé l'autel sur son emplacement, comme dans Esdras, dont le résidu est revenu de la captivité. Quelle est la première chose qu'ils ont faite? L'autel sur son emplacement. Ensuite, ils se sont occupés de la maison. L'autel sur son emplacement, c'est la réunion des enfants de Dieu comme membres du corps de Christ et non pas comme membres d'une assemblée ou d'une dénomination quelconque. L'expression « être membre d'une assemblée » n'est pas scripturaire. On est membre du corps de Christ. Et les dons sont pour tout le corps. Il n'y a pas de dons pour une assemblée locale, il y a des dons pour tout le corps. Par contre, les charges sont locales, nous le savons. Les anciens sont anciens dans une assemblée, ils ne sont pas dans l'autre. C'est autre chose. Mais les dons sont pour tout le corps. Quelle merveille que cette union des enfants de Dieu en un seul corps. Mais enfin, nous nous éloignons de notre sujet. Alors, il y a eu un sommeil, mais un cri s'est fait entendre. Remarquez qu'elles s'assoupirent toutes. Les vraies, les prudentes comme les folles. Sommeil avait gagné tous les croyants. Seulement à l'appel du Seigneur, alors les affections se sont réveillées. Et c'est le début du réveil d'assemblée produit par la grâce de Dieu et dont nous sommes les bénéficiaires. Alors, les folles demandent aux prudentes, donnez-nous de votre huile. Mais la réponse, non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous, allez plutôt vers ceux qui en vendent. Et achetez-en pour vous-même. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de cette dispensation qui s'est ouverte à la Pentecôte. Nous savons que c'est la parenthèse dans les voies de Dieu. Cette parenthèse va se fermer à la venue du Seigneur. Alors aujourd'hui, le Seigneur parle encore à tous. Il connaît ceux qui ont la vie, ceux qui ne l'ont pas. Nous ne savons pas, nous, le discerner. Mais, chers amis, c'est solennel. Il vient une seconde fois pour nous prendre, alors, pour enlever son Église. Pas pour s'occuper du péché. C'est fait une fois pour toutes. Il apparaîtra une seconde fois sans péché, c'est-à-dire n'ayant plus à s'occuper du péché, à salut, à ceux qui l'attendent. Le mot salut étant, dans ce passage, ayant le sens de délivrance finale. Nous savons qu'il y a le salut de l'âme, le salut de la course et le salut final. En hébreu 9, c'est le salut final. Il apparaîtra en une seconde fois sans péché, à salut, c'est-à-dire pour délivrer, pour enlever les siens. Alors, c'est là qu'il y aura une séparation. Sur ces bancs, chers amis, chers jeunes amis en particulier, sur ces bancs, si le Seigneur vient maintenant, l'un sera pris, l'autre laissé. Et en un instant, en un clin d'œil, combien c'est cela? Combien nous voudrions tous partir? Qu'il n'y ait personne qui soit laissé dehors. Et attention, il n'y aura plus de possibilité de croire en Christ. Les Bibles, quelqu'un disait, mais qu'est-ce qu'on en fera de ces Bibles? C'est fini, elles sont fermées. Elles ne diront rien à tous ceux qui ont entendu l'Évangile. C'est fini. Alors sera prêché un autre Évangile, l'Évangile du Royaume. Apocalypse 14, l'évangile éternel. Mais cet évangile ne touchera pas les nations christianisées. C'est trop tard pour cela. La porte fut fermée. Et qu'est-ce que cela veut dire? Aller vers ceux qui en vendent. Chers amis, ceux qui en vendent, c'est la parole de Dieu. Voilà le chemin du salut, il est là. Lisez-la, lisez-la, en demandant au Seigneur d'ouvrir votre cœur. C'est la parole de Dieu, ceux qui en vendent, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce sont ceux-là. Voilà ce que cela veut dire. Cela fait penser aussi à cette scène solennelle de Luc 16, quand Abraham est dans le riche et dans le Hadès, et Lazare dans le sein d'Abraham, un grand gouffre les sépare. Scène d'une solennité extraordinaire, puisqu'on a dit que c'est peut-être le seul passage où Dieu lève le voile sur l'au-delà. Le riche est dans les tourments. Mais il voit Lazare dans le bonheur. Il n'est pas dit que Lazare ait vu le riche. Non. Sens inverse. Et il demande qu'il ait un peu d'eau pour rafraîchir sa langue. Quel tourment. Alors quelle est la réponse? Oh, elle est dure. Elle nous paraît dure. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Car ils ne croiraient pas, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. En effet, chers amis, la résurrection des morts n'a pas converti personne. Ne le croyons pas. Les miracles ne convertissent pas les âmes. Ce qui convertit une âme, c'est l'action de la parole dans le cœur, l'action, l'eau et l'esprit, uniquement. Ce n'est pas les miracles. Ne courons pas après les miracles. On court après les miracles aujourd'hui. Pas ça qui convertit une âme. Ils ne croiraient même pas, dit le Seigneur, si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont la parole de Dieu. Voilà, chers amis, c'est votre part à tous. Vous avez la parole de Dieu. Qui ne l'a pas? Qui ne l'a pas? Un de mes collègues de bureau m'a dit cette semaine, ce n'est pas vu. Il avait reçu de la part d'un de nos frères qui est, je crois, ici, une Bible avec divers traités. C'est un protestant, disons. Un protestant, ça veut dire beaucoup de choses et pas beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il a la vie. Mais enfin, on s'est entretenu plus d'une fois ensemble. Eh bien, il m'a dit, comment se fait-il qu'on puisse recevoir des Bibles au prix de 10 francs. Qu'est-ce que c'est que 10 francs aujourd'hui? Eh bien, je lui ai dit, c'est un sujet d'action de grâce pour Dieu. Je remercie Dieu avec vous. Oui, pour 10 francs, on a une Bible, la parole de Dieu. Eh bien, je lui ai dit, lisez-la, et je prierai pour vous, parce qu'il cherche la vérité, ce garçon. Il est dans les systèmes, il y a de la droiture, mais il n'a pas vu encore. Je ne sais pas s'il a la vie, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, il cherche le Seigneur. Eh bien, Dieu veille sur sa parole. Elle est à la portée de tous. Elle ne coûte pas cher. Quelle grâce de la part de Dieu. Alors, c'est ce qui est en vue ici, et dans la parabole de Luc 16, aller vers ceux qui en vendent. Et alors, comme elles allaient pour en acheter, l'époux vint, et celle qui était prête. Alors, il faut s'arrêter sur ce verbe, sur ce mot, celle qui était prête. On est prêt, ou on n'est pas prêt. Êtes-vous prêt? Il y a un verset solennel dans un prophète. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Si nous sommes prêts tous ici, chers amis, bien-aimés, nous partons à sa rencontre. Il nous enlèvera en un instant d'un clin d'œil. Quelle puissance! L'excellente grandeur de sa puissance qui a été déployée dans sa résurrection même. C'est cette puissance-là qui interviendra pour ressusciter les saints. L'excellente grandeur, dit Paul, de sa puissance qu'il a déployée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Ce sera quelque chose d'extraordinaire que la résurrection des saints, quelque chose qui étonnera certainement beaucoup de ceux qui nous entourent. On ne verra plus les croyants, ils ne sont plus là. Beaucoup de questions vont se poser. Que sont-ils devenus? Nous n'avons pas, chers amis, à nous faire du souci pour cela. Nous serons avec le Seigneur. Mais pour ce monde, alors ce sera la nuit. Les ténèbres s'épaissiront. De Thessaloniciens 2 nous dit que ils recevront une énergie d'erreur pour croire au mensonge. Une énergie d'erreur. Il y en a des erreurs aujourd'hui et Satan en soumet beaucoup. Mais une énergie d'erreur, ce sera terrible, ce sera encore bien pire. Il faudra avoir la marque de la bête pour acheter, pour vendre. La marque sur son front ou sur sa main. Et est-ce que nous n'allons pas déjà vers ce moment avec tous les moyens actuels que l'homme emploie? Je ne veux pas entrer dans ces questions. Chacun, beaucoup d'entre nous sont plus au courant que moi. Mais il y a déjà là le prélude à la marque de la bête. Aujourd'hui, avec un ordinateur, on vous dit tout ce qu'on veut. C'est bien là, certainement, un prélude. Quel temps terrible. Alors, nous allons le voir avec Philadelphie, nous serons gardés de l'heure de l'épreuve, c'est-à-dire hors de l'heure de l'épreuve, pas dans l'heure de l'épreuve, hors, en dehors. Nous ne la connaîtrons pas. Et alors, quelle parole solennelle pour terminer ce paragraphe. Celle qui aurait voulu entrer, Seigneur, ouvre-nous, mais je ne vous connais pas. Ah, celui qui est le bon berger, qui appelle ses brebis, qui les invite à venir, devra dire, je ne vous connais pas. Celui qui, dont la douce voix se fait entendre aujourd'hui, qui dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Vous qui êtes fatigués, il devra dire, je ne vous connais pas. Et cela fait penser à cette scène de Genèse 6, le déluge, où nous avons là aussi là une porte fermée. Et la porte fut fermée. C'est l'Éternel qui a fermé la porte, c'est pas Noé. On l'a souvent dit, souligné. Les croyants, nous, qu'est-ce que nous avons à faire? À prier pour tous les hommes. Priant pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont haut placés. Désirant le salut de tous. Mais l'Éternel ferma la porte de l'arche sur lui. Et dans Luc, ces événements solennels sont rappelés. Le Seigneur rappelle ces choses. Et il dit, le déluge vint, ils ne connurent rien. Ils ne connurent rien. Et le déluge vint et les fit tous périr. Et un frère disait, combien de mains se sont tendues vers cette arche qui s'élevait sur les eaux, jusqu'à ce que les plus hauts sommets furent couverts, les sommets des montagnes. 40 jours, 40 nuits. J'avais lu un livre à ce sujet, c'est un livre très ancien, un chrétien qui s'appelait Gosens. Il disait que, je ne me souviens pas exactement, mais il y a deux choses, il y a les écluses des cieux et les fontaines du grand abîme. Sorte qu'il s'est passé un cataclysme extraordinaire à cette époque-là. D'en haut et d'en bas. Pas à même de l'expliquer, bien sûr. Je l'ai lu, je ne m'en souviens plus de tous les termes. Mais ce frère expliquait cela. Ce chrétien, c'est pas un frère de l'Assemblée. Il a écrit sur le livre de la Genèse, Gosens. Mais il est sûrement un chrétien très. Sûrement du siècle dernier. Tout ce qu'il dit est très bon, très scripturaire. Mais alors, quand il parle de ce déluge, il explique pourquoi les fontaines, les écluses des cieux et les fontaines du grand abîme, de sorte que l'eau a monté très rapidement, à une vitesse extraordinaire. et a tout enlevé. Huit personnes furent sauvées à travers l'eau, nous dit Pierre, Noé et sa famille. Et un frère disait aussi, chaque coup de marteau, quand il construisait son arche, c'était un appel solennel, entrez dans l'arche, entrez, le jugement est à la porte. Il en a enfoncé des clous, Noé, pour construire son arche. Avant, regardez un coup d'œil combien cela représente, c'était un vaisseau déjà important. Chaque coup de marteau, c'était comme si Dieu avait dit, attention, attention, le déluge va venir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quelle douleur pour Dieu, j'exterminerai l'homme, dit-il. Quelle douleur dans le cœur de Dieu. L'homme qu'il avait créé, qu'il avait placé dans une sphère de bénédiction en Éden, de devoir dire, j'exterminerai l'homme. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, et c'est la première fois que dans la parole de Dieu, on trouve le mot de grâce. Cette grâce si riche qui va être déployée tout au long du Saint-Livre, cette grâce qui va apparaître dans la personne de Christ, il en sera la parfaite expression. Ah, le jugement est son œuvre étrange, son travail inaccoutumé. Dieu veut bénir, mais si l'homme refuse, si l'on ne veut pas venir à lui, alors la responsabilité demeure sur chacun. Venez, chers enfants, que nous aimons de tout notre cœur. Nous savons que vous êtes dans un monde qui est prêt pour le jugement. Nous savons que vous avez des problèmes, des difficultés que nous n'avons pas nous-mêmes connues. Nous en sommes conscients. Venez vous mettre à l'abri du sang versé à la croix. Venez vous mettre à l'abri des ailes du bon berger. Comment échapperons-nous, dit l'apôtre, si nous négligeons un si grand salut? Et ce verbe négliger, c'est très, très remarquable dans cette épître aux Hébreux. Il n'est pas dit, comment échapperons-nous si nous refusons un si grand salut? Si nous le négligeons, une simple négligence conduit en enfer. Négliger, ça veut dire tenir pour rien. C'est le sens de la note, d'ailleurs. Tenir pour rien. Ah, combien c'est sérieux. Et quel bonheur d'être à Christ et de l'attendre dans un monde où tous les fondements sont ébranlés aujourd'hui. L'immoralité, la corruption, tout s'étale au plein jour, la violence. Quel bonheur possède le croyant, un trésor dans un vase de terre, de Corinthiens 4. Il a un trésor, c'est le trésor de la foi. Il n'y a pas de trésor plus grand que celui-là. La foi. Avant de parler de la foi, de l'espérance et de l'amour. Les trois vertus théologales, on les retrouve ensemble, on a dit comme trois sœurs, dans la première épître aux Thessaloniciens, dans l'épître aux Colossiens, la foi, l'espérance, l'amour, elles vont toujours ensemble. Et la foi et l'espérance prendront fin. À la venue du Seigneur, nous aurons la réalité, nous le verrons. Mais l'amour est éternel. Le ciel sera rempli d'amour. Ta bannière sur moi, c'est l'amour. Il est déjà tard, nous avons ensuite, dans le deuxième paragraphe, je voudrais en dire seulement un mot, la responsabilité du croyant, dans l'attente du retour de son Seigneur, il a reçu des talents, il doit les faire valoir. Cinq talents, un talent, chacun selon sa propre capacité, alors c'est le service, cela s'enchaîne bien tout cela. En attendant le Seigneur, est-ce que nous devons nous croiser les bras, comme disait quelqu'un? Sûrement pas. Nous devons servir, et on ne servira jamais trop jeune. Le petit Samuel, je sais pas, quel âge avait-il? Je pose la question, je ne sais pas exactement. Il ouvrait les portes de la maison de l'Éternel. Elle devait être lourde, je suppose. Il les ouvrait. Quelle affection pour la maison de Dieu, si jeune. On n'est jamais trop jeune pour servir son maître. Plus on commencera jeune, mieux cela vaudra. Tous les serviteurs de Dieu ont commencé jeunes, La plupart. Tous, c'est peut-être trop dire, mais la plupart. Vivre une vie pour Christ, nous n'en avons qu'une, comme l'a dit aussi un autre. Est-ce que nous allons la vivre pour nous-mêmes ou pour le Seigneur? Que de temps perdu. Que de temps perdu. Vivons-la pour lui. Cela vaut la peine. Paul disait, pour moi vivre, c'est Christ. Cette parole, nous la prononçons, mais nous sentons bien que nous n'y entrons pas. Pour moi vivre, c'est Christ. Et puis, à partir du verset 31, alors il c'est le Fils de l'homme qui vient dans sa gloire. Nous sommes reportés là, au début du jugement, au moment du jugement des vivants, c'est le jugement des vivants. Il s'assied sur le trône de sa gloire, il est assis sur le trône du Père actuellement. Il s'assiera sur le trône de sa gloire sur la terre, à Jérusalem. Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, d'où il a été élevé. Et alors c'est le gouvernement qu'il exercera alors. Là nous sautons la dispensation chrétienne. Et il y a la séparation des brebis et des chèvres. C'est le jugement des vivants auquel on peut rapprocher le jugement guerrier d'Apocalypse 19. C'est l'aube du règne. Mais un mot seulement alors sur les passages encore ajoutés dans Pierre. Pierre dit « La fin de toute chose s'est approchée », il écrit à des croyants juifs qui étaient dans la dispersion, disons-nous au début de l'épître, et qui traversaient la persécution puisqu'il parle d'un feu, du feu qui les sonde, l'épreuve. Il parle de l'épreuve de leur foi et plus loin il parle du feu ardent, verset 12, chapitre 4. La fin de toute chose s'est approchée, dit Pierre. Ah oui, hein. Tout ce que nos yeux voient, cela paraît solide. Et en réalité, c'est tout pour le feu. La parole vient de nous le dire au deuxième épître. Toutes ces choses devant donc se dissoudre. Tout est pour être dissous. C'est-à-dire anéanti. La terre et les cieux sont réservés par sa parole pour le feu. Ce qui ne veut bien comprendre qu'il n'y aura pas de déluge, un nouveau déluge. On entend dire quand il pleut beaucoup dans ce monde, les gens du monde disent c'est le déluge. Non, non. Aucune crainte, ce ne sera pas le déluge. Mais ce sera le feu. Les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu. Ah, ce sera un moment solennel. Et cet épître de Pierre, la seconde, qui parle du gouvernement de Dieu envers le monde, nous amène jusqu'au jour de Dieu, c'est-à-dire le jour d'éternité. Il y a le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur s'ouvre en somme avec les jugements qui vont tomber sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Il va jusqu'au jour de Dieu. Il comprend le millénium, et alors s'ouvre le jour d'éternité, le jour éternel, le jour de Dieu, et alors seront introduits des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. Sans doute que Pierre pensait à la fin de Jérusalem qui était proche, la fin de toute chose s'est approchée, mais la fin de toute chose, c'est aussi, bien entendu, la fin de ce que nos yeux voient aujourd'hui, la fin de notre planète. La fin, ce que les gens appellent la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas la fin du monde, quels que soient les événements qui se passent encore aujourd'hui. Il y en a pour plus de 1000 ans. La fin du monde, la fin de cette création, c'est quand le Seigneur aura terminé son règne de 1000 ans et qu'il introduira ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Alors, il y a une différence, on l'a souvent souligné, entre le millénium et l'état éternel. Pendant le millénium, la justice régnera. Un roi régnera en justice, Ésaïe 32, et des princes domineront avec droiture. Tu les pèteras avec un sceptre de fer. Il faudra que tout se courbe devant lui, toujours. Le méchant, il y en aura, il sera tranché chaque matin. Psaume 101. Les nations monteront d'année en année à Jérusalem pour apporter leur gloire à Christ. Ce sera un temps merveilleux. Lui régnera avec sa chère Église. Et nous en avons une figure dans l'Apocalypse à partir du verset 10 du chapitre 21. L'Église est vue comme une sainte cité descendant du ciel auprès de Dieu. Et elle est bâtie en carré, il est parlé de sa muraille, qui est de jaspe, la gloire de Dieu. Et des portes, il y a le nom des 12 apôtres de l'agneau. Certainement, ceux qui ont suivi Christ dans sa réjection auront une place particulière au jour de sa gloire. Le nom des 12 apôtres de l'agneau. Ce n'est pas pour rien que cela est dit. Dieu s'occupera de la place qu'il va donner à tous les saints. Nous n'avons pas à nous en mettre en souci. Nous disons souvent que la part de l'Église est la plus privilégiée, c'est vrai. Elle est l'épouse de Christ. Il n'y a pas de relation plus intime que celle-là, la femme de l'agneau. Mais ne croyons pas que les saints de l'Ancien Testament y perdront. Un Abraham qui a été appelé ami de Dieu, un Moïse qui a parlé avec l'Éternel face à face, ne croyons pas qu'ils perdront quelque chose. Bon. Là aussi, il y a un article intéressant. Les saints de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau. Nous pouvons le rechercher pour les jeunes, je le signale, dans les messages. Chacun aura sa part de bénédiction. Mais les relations ne sont pas les mêmes. Voilà la question. Il y aura aussi des croyants après nous. Ils sont mentionnés dans l'Apocalypse. Des martyrs. Ils n'ont pas l'esprit comme nous l'avons. Ils n'auront pas l'esprit habitant en eux. Mais ils seront fidèles jusqu'à la mort. Ils auront la couronne de vie et le Seigneur leur donnera une part aussi. Ce sont des dispensations différentes. Quoi qu'il en soit, tous les élus de tous les temps seront bienheureux dans cette éternité où la justice non pas régnera mais habitera, c'est-à-dire sans contrainte. Sans contrainte. Le péché étant absolument ôté et le dernier ennemi étant aboli, c'est la mort. Il sera aboli. Déjà, quand le Seigneur viendra pour prendre les croyants, elle sera engloutie en victoire. Mais il faut attendre le jour éternel, alors la mort ne sera plus. Apocalypse 21. Eh bien, retenons, chers amis, en terminant, ces exhortations qui nous concernent tous. Verset 14 de Pierre. En attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui en paix. Alors quelqu'un dira, oui, mais Paul nous dit que nous sommes irréprochables et irrépréhensibles devant lui dans les lieux célestes, c'est vrai. Ça, c'est la position chrétienne. Mais il y a la marche, il y a la pratique, sans tache et irréprochables devant lui. C'est dans le chemin de la foi que nous avons à réaliser ces choses. Il faudrait remarquer en passant ce sujet que dans le tabernacle, on peut le rechercher. Et si nous comptons bien, les 10 tapis qui formaient la couverture magnifique de bleu, de pourpre et d'écarlate et de fin coton retors faisaient 280 coudées. On retrouve les 280 coudées dans les tentures qui formaient l'enceinte du tabernacle. 280 coudées dans le sanctuaire, vues seulement par Aaron. 280 coudées au dehors, vues par tout le monde. Voilà la justice pratique. Recherchons-le, regardons-le, c'est cela. 280 coudées au-dedans, 280 coudées au dehors. Tel qu'il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. La réalisation, nous sentons bien qu'elle nous échappe. Mais le Seigneur veut nous aider. Il est là pour, dans la gloire, pour nous aider. Divin sacrificateur pour nous aider, pas avec le péché, jamais le Seigneur ne sympathise pas avec aucun péché, mais avec l'infirmité, dans nos infirmités, et nous en avons. Il veut nous aider, nous secourir. Quel autre que lui? Quel autre voudrait, dit le cantique? Quel autre pourrait nous tirer d'angoisse et nous secourir? Étudiez-vous. C'est une étude. C'est un exercice de tous les jours. Étudiez-vous. C'est comme quand il nous est dit dans Éphésiens 4, appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il faut s'y appliquer à cela. L'unité du corps, elle est faite. Ce n'est pas nous qui l'avons faite. Elle découle de l'œuvre de Christ et de sa glorification. Mais appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un exercice, et là aussi c'est la même chose, étudiez-vous à être trouvé sans tâche et irréprochable. Il sera dit de certains témoins qui viendront après nous au chapitre 14 de l'Apocalypse, ils sont irréprochables. Ils suivent l'agneau où qu'il aille. Quelle est cette compagnie de croyance très proche de l'assemblée, d'ailleurs ils chantent le cantique. Ce sont certainement de ceux du résidu de Judas, probablement. Mais il est dit, ils sont irréprochables. Quel témoignage ils rendront après nous à la gloire du Seigneur. Et alors nous avons à estimer aussi que la patience de notre Seigneur est salut. Voilà. Alors pourquoi le Seigneur? Nous disons, il tarde, c'est pas juste. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse. Mais il est patient envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Sa patience est salut. Et aujourd'hui encore, dans le monde entier, combien d'âmes auront saisi en lui leur sauveur? Combien d'âmes malheureuses et perdues auront trouvé en Christ leur sauveur personnel? C'est pourquoi nous sommes encore sur la terre. Il n'y a pas d'autre raison. Dès que la dernière pierre sera posée, le Seigneur enlèvera son assemblée et l'introduira dans la gloire avec lui. Alors, je termine par cet comme on a dit, cette doxologie, verset 18. À lui la gloire, et maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen.